Ils avaient effectivement contracté la maladie de l'insomnie. Ursula, qui avait appris de sa mère les vertus médicinales des plantes, prépara et fit boire à chacun un breuvage à base d'aconie, mais ils ne trouvèrent pas le sommeil pour autant et passèrent la journée à rêver tout éveillés. Dans cet état de lucidité effrayante et d'hallucination, non seulement ils voyaient les images qui composaient leurs propres rêves, mais chacun voyait en même temps les images rêvées par les autres. C'était comme si la maison s'était remplie de visiteurs. Assise dans son fauteuil à bascule dans un coin de la cuisine, Rebecca rêva d'un homme qui lui ressemblait beaucoup, habillé de toile blanche, le col de sa chemise fermé par un bouton en or, et qui venait lui apporter un bouquet de roses. Il était accompagné d'une femme aux mains délicates qui prit une rose et la mit dans les cheveux de la fillette. Ursula comprit que cet homme et cette femme n'étaient autres que les parents de Rebecca, mais, bien qu'elle fît effort pour les reconnaître, cette vision confirma sa certitude de ne les avoir jamais rencontrés. Cependant, par une négligence coupable que José Arcadio Buendía ne se pardonna jamais, les petits animaux en caramel continuaient à se vendre de par le village. Les adultes comme les enfants suçaient avec ravissement les délicieux coquelets verts de l'insomnie, les exquis poissons roses de l'insomnie et les tendres petits chevreaux jaunes de l'insomnie, si bien que l'aube du lundi surprit tout le village éveillé. Au début, personne ne s'inquiéta. Au contraire, tout le monde se félicitait de ne point dormir, car il y avait tant à faire alors à Macondo que les journées paraissaient toujours trop courtes. Les gens travaillèrent tellement qu'il n'y eut bientôt plus rien à faire, et ils se retrouvèrent les bras croisés à 3 heures du matin à compter les notes de musique de la valse des horloges. Ceux qui voulaient dormir, non parce qu'ils étaient fatigués, mais pour pouvoir rêver à nouveau, eurent recours à toutes sortes de méthodes épuisantes. Ils se réunissaient pour converser sans trêve, se répétant pendant des heures et des heures les mêmes blagues, compliquant jusqu'aux limites de l'exaspération l'histoire du coq-chapon, qui était un jeu sans fin où le narrateur demandait si on voulait bien qu'il raconte l'histoire du coq-chapon, et si on répondait oui, le narrateur disait qu'il n'avait pas demandé qu'on lui dise oui, mais si on voulait bien qu'il raconte l'histoire du coq-chapon, et quand on répondait non, le narrateur disait qu'il n'avait pas demandé qu'on lui dise non. Mais si on voulait bien qu'il raconte l'histoire du coq-chapon, et si tout le monde se taisait, le narrateur disait qu'il n'avait demandé à personne de se taire, mais si on voulait bien qu'il raconte l'histoire du coq-chapon, et nul ne pouvait s'en aller parce que le narrateur disait qu'il n'avait demandé de partir à aucun. Mais si on voulait bien qu'il raconte l'histoire du coq-chapon, et ainsi de suite, en un cercle vicieux qui pouvait durer des nuits entières. Lorsque José Arcadio Buendía se rendit compte que la peste avait envahi le village, il réunit les chefs de famille pour leur expliquer ce que lui-même connaissait de la maladie de l'insomnie. Et l'on prit des mesures afin d'éviter que le fléau ne se répandît parmi les autres hameaux du Marigot. C'est ainsi qu'on ôta aux chèvres les clochettes que les Arabes avaient apportées en échange de perroquets, et qu'on les mit à l'entrée du village, à la disposition de ceux qui, restant sourds aux recommandations et aux adjurations des sentinelles, insistaient pour y pénétrer. Tout étranger parcourant en ce temps-là les rues de Macondo devait faire sonner ses clochettes afin que la population malade sût qu'il ne l'était pas. On ne les autorisait à rien boire ni manger au cours de leur séjour, car il ne faisait aucun doute que la maladie se transmettait seulement par la bouche et que tout ce qu'on pouvait manger et boire se trouvait contaminé par l'insomnie. Aussi bien la peste demeura-t-elle circonscrite dans le périmètre du village. Si efficace fut la quarantaine que vint le jour où l'état d'urgence fut considéré comme une chose toute naturelle. La vie s'organisa de telle manière que le travail reprit son rythme, et personne ne s'inquiéta plus de l'inutile coutume qui voulait qu'on dormît. Ce fut Aureliano qui conçut la formule grâce à laquelle ils allaient se défendre pendant des mois contre les pertes de mémoire. Il la découvrit par hasard. Expert en insomnie, puisqu'il avait été l'un des premiers atteints, il avait appris à la perfection l'art de l'orfèvrerie. Un jour, en cherchant la petite enclume qui lui servait à laminer les métaux, il ne se souvint plus de son nom. Son père le lui dit. C'est un tas. Aureliano écrivit le nom sur un morceau de papier qu'il colla à la base de la petite enclume. Tas. Ainsi fut-il sûr de ne pas l'oublier à l'avenir. Il ne lui vint pas à l'idée que ce fût là un premier symptôme d'amnésie, parce que l'objet en question avait un nom facile à oublier. Pourtant, quelques jours plus tard, il s'aperçut qu'il éprouvait de la difficulté à se rappeler presque tous les objets du laboratoire. Alors, il nota sur chacun d'eux leurs noms respectifs, de sorte qu'il lui suffirait de lire l'inscription pour pouvoir les identifier. Quand son père lui fit part de son inquiétude, parce qu'il avait oublié jusqu'aux événements les plus marquants de son enfance, Aureliano lui expliqua sa méthode et José Arcadio Buendía la mit en pratique dans toute la maisonnée et l'imposa plus tard à l'ensemble du village. Avec un badigeon trempé dans l'encre, il marqua chaque chose à son nom. Table, chaise, horloge, porte, mur, lit, casserole. Il se rendit dans l'enclos et marqua les animaux comme les plantes. Vache, bouc, cochon, poule, manioc, malanga, bananier. Peu à peu, étudiant les infinies ressources de l'oubli, il se rendit compte que le jour pourrait bien arriver où l'on reconnaîtrait chaque chose grâce à son inscription, mais où l'on ne se souviendrait plus de son usage. Il se fit alors plus explicite. L'écriteau qu'il suspendit au garrot de la vache fut un modèle de la manière dont les gens de Macondo entendaient lutter contre l'oubli. « Voici la vache. Il faut la traire tous les matins pour qu'elle produise du lait. Et le lait, il faut le faire bouillir pour le mélanger avec du café et obtenir du café au lait. » Ainsi continuèrent-ils à vivre dans une réalité fuyante, momentanément retenue captive par les mots, mais qui ne manquerait pas de leur échapper sans retour dès qu'ils oublieraient le sens même de l'écriture. À l'entrée du chemin du Marigot, on avait planté une pancarte portant le nom de Macondo, et dans la rue principale, une autre proclamant « Dieu existe ». Pas une maison où l'on eût écrit ce qu'il fallait pour fixer de la mémoire chaque chose, chaque sentiment. Mais pareil système exigeait tant de vigilance et de force de caractère que bon nombre de gens succombèrent au charme d'une réalité imaginaire, sécrétée par eux-mêmes, qui s'avérait moins pratique à l'usage, mais plus réconfortante. Ce fut Pilar Ternera qui contribua le plus à répandre cette mystification. Quand elle eut l'idée ingénieuse de lire le passé dans les cartes, comme jadis elle y lisait l'avenir. Par ce biais, ces gens qui ne dormaient pas commencèrent à vivre en un monde issu des intercurrences et du hasard des cartes, où le souvenir du père s'identifiait bon gré mal gré à celui de tel homme brun arrivé début avril, et l'image de la mère à celle de telle femme brune qui portait un anneau d'or à la main gauche, où telle date de naissance ne pouvait que remonter au dernier mardi qu'on entendit chanter l'alouette dans le laurier. Ces pratiques consolantes eurent raison de José Arcadio Buendía, qui décida alors de construire cette machine de la mémoire dont il avait déjà eu envie autrefois pour se souvenir de toutes les merveilleuses inventions des gitans. Le principe de cette machine consistait à pouvoir réviser tous les matins, du début jusqu'à la fin, la totalité des connaissances acquises dans la vie. Il l'imaginait comme une sorte de dictionnaire à mouvement giratoire qu'un individu situé dans l'axe pourrait actionner au moyen d'une manivelle, de sorte qu'en quelques heures défileraient devant ses yeux les notions les plus nécessaires à l'existence. Il en était arrivé à rédiger près de 14 000 fiches lorsque survint par le chemin du Marigot un extraordinaire vieillard, avec la mélancolique clochette des dormeurs, une valise ventrue amarrée à l'aide de cordes et une voiturette recouverte de chiffon noir. Il se rendit directement chez José Arcadio Buendía. En lui ouvrant la porte, Meditación ne le reconnut pas et pensa qu'il avait l'intention de fourguer quelques marchandises, ignorant que rien ne pouvait plus être vendu dans un village qui s'enlisait irrémédiablement dans les fondrières de l'oubli. C'était un vieillard tout décrépit. Malgré sa voix, également brisée par l'incertitude, et ses mains qui paraissaient douter de l'existence des choses, il était clair qu'il venait du monde où les hommes pouvaient encore dormir et se souvenir. José Arcadio Buendía le trouva assis dans la salle commune, s'éventant avec son chapeau noir tout rapiécé, en train de lire avec attention et commisération les écriteaux fixés au mur. Il le salua en lui prodiguant force démonstration d'amitié, car il craignait l'avoir connu en d'autres temps et ne plus le remettre à présent. Mais le visiteur perçut son manège. Il se sentit oublié, victime non d'un oubli du cœur, auquel on pouvait remédier, mais d'un autre oubli plus cruel et inguérissable qu'il connaissait fort bien, car c'était l'oubli de la mort. Alors, il comprit. Il ouvrit sa valise bourrée à craquer d'objets mystérieux et en sortit une mallette pleine de flacons. Il donna à boire à José Arcadio Buendía une substance de couleur engageante et la lumière se fit dans sa mémoire. Ses yeux se brouillèrent de larmes. Puis il prit conscience de l'absurdité de l'endroit où il se trouvait, où chaque objet était marqué à son nom. Il eut honte de tant d'énormités et de bêtises affichées sur les murs et il finit par reconnaître, ébloui, radieux, transporté d'allégresse, la personnalité du nouveau venu. C'était Melquiades. Cependant que Macondo fêtait la reconquête de ses souvenirs, José Arcadio Buendía et Melquiades secouaient un peu la poussière de leur vieille amitié. Le gitan venait au village tout disposé à y rester. Il était allé chez les morts, en effet, mais s'en était retourné parce qu'il ne pouvait supporter la solitude. Banni de sa tribu, dépouillé de tout pouvoir surnaturel en châtiment de sa fidélité à la vie, il résolut de se réfugier dans ce coin perdu de la terre que la mort n'avait pas encore découvert, pour se consacrer à la mise en place et au fonctionnement d'un laboratoire de daguerréotypie. José Arcadio Buendía n'avait jamais entendu parler d'une semblable invention. Mais quand il se vit avec toute sa famille, fixée pour l'éternité sur une plaque de métal au reflet gorge de pigeon, la stupeur le rendit muet. De cette époque datait le daguerréotype tout oxydé sur lequel on peut voir José Arcadio Buendía, le cheveu dru et cendré, avec un col à manger de la tarte fermé par un bouton de cuivre, l'air solennel et ahuri, tel enfin qu'Ursula le décrivait morte de rire en le comparant à un général effarouché. En vérité, José Arcadio Buendía était assez effrayé en cette matinée diaphane de décembre, où fut pris ce daguerréotype, car il s'imaginait que les gens devaient peu à peu s'user à force de laisser leur image s'inscrire sur les plaques métalliques. Par un curieux retour des choses, ce fut Ursula qui lui ôta cette idée de la tête, comme ce fut elle qui, oubliant ses anciennes rancœurs, décida que Melquiades resterait vivre à la maison, bien qu'elle ne permît jamais qu'on lui fît un daguerréotype, car, pour reprendre ses propres termes, elle ne voulait pas demeurer indéfiniment la risée de ses petits-enfants. Ce matin-là, elle revêtit les enfants de leurs plus beaux atours, leur poudra la figure et administra une cuillerée de sirop d'extrait de moelle à chacun, pour les faire rester tout à fait immobiles pendant presque 2 minutes devant l'appareil de prise de vue de Melquiades. Dans ce daguerréotype de famille, le seul qui fut jamais pris, Aureliano apparaissait tout habillé de velours noir entre Amaranta et Rebecca. Il avait la même expression languide et ce regard pénétrant qui devait être encore les siens des années plus tard face au peloton d'exécution. Pourtant, il n'avait encore éprouvé aucune prémonition de son destin. C'était un orfèvre expert, estimé dans toute la région du Marigot pour son travail raffiné. Dans l'atelier, qui abritait également l'extravagant laboratoire de Melquiades, c'était à peine si on l'entendait respirer. On aurait dit qu'il s'était réfugié dans un autre temps, cependant que son père et le gitan interprétaient à grands cris les prédictions de Nostradamus, dans l'entrechoquement des fioles et des cristallisoires, le désastre des acides renversés, du bromure d'argent perdu à cause des coups de coude et des croche-pieds qui se faisaient ou se donnaient à chaque instant. Cette assiduité dans le travail, le bon sens avec lequel il gérait ses propres intérêts, avait permis à Aureliano d'amasser rapidement plus d'argent que n'en avait gagné Ursula avec sa délicieuse faune en caramel, mais tout le monde s'étonnait de ce qu'il fût déjà un homme accompli et qu'on ne lui connût aucune femme. En réalité, lui-même n'en avait connu aucune.